Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Monsieur Madoff a été arrêté jeudi
26 milliards de dollars de ses volets dans l'origine
de milliards d'euros
à côté près de 1
Dieselgate à côté de 30 milliards d'euros au
bout.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première revue de presse de la fraude qu'on héberge sur Fraudster. Je suis Julien et je suis très heureux de rester avec vous pour, je pense, une quinzaine de minutes sur lesquelles on va discuter de plusieurs articles qui sont sortis ce mois-ci ou le mois dernier et qui concernent la fraude dans tous ses états. Donc on commence par une news qui est un peu de crypto, mais pas que. Ça se passe en Israël. La police a arrêté 15 personnes qui avaient monté beaucoup de faux sites pour investir dans du forex, donc le forex c'est les devises étrangères, dans du bitcoin, dans d'autres produits financiers, et qui avaient aussi monté des centres d'appel pour que les vendeurs puissent aller recruter de nouvelles personnes à escroquer. Pourquoi je parle d'escroquerie? Parce qu'en fait c'était une... Alors, on peut pas dire que c'était une énorme pyramide de Ponzi, mais en fait ils prenaient vos gains et ils vous les redonnaient jamais. Donc en fait, vous investissiez un montant initial, on vous promettait 10, 15, 20% au bout de 6 mois, et quand vous demandez à rapatrier les fonds, bah, plus personne ne vous répondait. Donc ces personnes-là avaient réservé des sites internet comme SolidCFD, TradeSolid, BitCapital Markets, etc., etc., pour essayer de se créer une image de marque et surtout un sentiment de confiance. Vous pouviez appeler un centre d'appel, comme ça vous étiez rassuré parce que vous aviez des personnes qui parlaient votre langue et qui vous aidaient à investir dans ce site-là pour acheter des produits financiers. Bref, on estime à peu près à 1 ou 2 millions de dollars le montant de la fraude, sachant qu'il y a 1,2 million de dollars qui sont actuellement gelés sur des comptes bancaires à travers l'Europe. Alors, toujours dans de la crypto, avec un côté un petit peu plus risible, un petit peu plus pieds nickelés. John Demar, un Américain, s'est fait arrêter la semaine dernière par le FBI en Californie parce qu'il est soupçonné d'avoir escroqué pour 11 millions de dollars des investisseurs en Bitcoin. Mais en Bitcoin, il avait créé une marque qui s'appelait Bitcoin. Alors je ne sais même pas comment le prononcer parce que c'est BITCO2IN. Vous voyez un peu là, ça fait un petit côté le faux de chez ED quoi. Mais en plus, il a fait un coup de génie, un coup qu'on pourrait qualifier de Fire Festival, puisqu'il a engagé Steven Seagal pour faire de la promotion de son Bitcoin. Alors comment ça se passe? Quand vous voulez lancer une crypto-monnaie, vous devez faire ce qu'on appelle une ICO, Initial Coin Offering, ou en français selon Wikipédia, première émission de jetons. Donc comment ça se passe? Vous allez chercher des gens, vous leur dites voilà, investis 100 000 dollars, 100 000 euros, 100 000 francs suisses dans ma monnaie. Et si on arrive à réunir assez d'argent, on la monte sur une plateforme type Coinbase et les gens se l'échangeront. Et toi, tu auras acheté pour 15% de cette monnaie-là. Bah, quand les gens vont commencer à la trader, elle va prendre en valeur et tu vas te faire beaucoup d'argent. Dans le principe, c'est la même chose quand une entreprise rentre en bourse et met une partie de son capital en vente. Mais il faut bien que les personnes en charge du projet aient au bout de la démarche. Et là, vous vous doutez bien qu'on n'est pas arrivé au bout de la démarche. Les gens ont levé 11 millions, et puis après, ils les ont gardés, et ils ont essayé de se volatiliser dans la nature. Alors, il y en a un qui est parti, on ne sait pas où. Il y a un autre Demar, là, qui a dit « Je vais aller à Hong Kong pour régler le problème », et qui est parti au Monténégro pour essayer de disparaître après. C'est très compliqué, on s'en rend pas compte, mais les ICO, il y a plus de mauvais chevaux que de bons chevaux. Donc si jamais un jour on vous propose d'investir dans une ICO, faut vraiment être ultra carré sur sa propre analyse financière avant de donner le moindre centime à ce genre de produit. Et Steven Seagal dans tout ça? Eh ben, il a payé une amende à la SEC, donc qui est le gendarme financier aux États-Unis, de 300 000 dollars pour, on va dire, régler son ardoise, sachant que lui-même n'avait jamais investi un seul dollar dans ce Bitcoin, puisqu'il était juste rémunéré pour faire la promotion, comme n'importe quel influenceur, de cette crypto-monnaie.
Crois que vous n'êtes pas assez riche.
Mais je le suis. J'ai des milliers de dollars. Je vais sortir mon portefeuille très lentement de ma poche.
Les dieux en y voir.
J'ai plein de liquide. À moins que vous acceptiez les cartes de crédit.
Les cartes ?
Oui, je me suis permis de mettre un petit extrait de Steven Seagal, fabuleux acteur des années 90. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais dans la description de l'épisode, vous aurez tous les liens qui m'ont servi à construire bien sûr cette revue de presse, et puis vous pourrez aller explorer les articles qui vous intéressent en détail. Là, on passe en Belgique, et on va passer aux fraudes aux services sociaux. Donc, temps de Covid dit chômage technique, et bien sûr, il y a des petits malins, donc là, c'est tombé sur la Belgique, mais ça aurait pu tomber dans d'autres pays, qui ont créé des fausses entreprises avec des faux employés qu'ils ont mis au vrai chômage technique pour pouvoir toucher entre 1000 et 1500 euros par mois par personne. Et ils ont fait ça pendant plusieurs mois. Donc on a 43 personnes qui ont été inculpées pour un montant total de 2 millions d'euros. Ce qui est quand même assez fou vu la petite période de temps sur laquelle la fraude a eu lieu. Toujours sur les services sociaux, on part sur la médecine. Et là, c'est un cas qui est vraiment très particulier puisque ça concerne des joueurs de NBA. Donc on a 18 anciens joueurs de NBA qui sont accusés d'avoir fait des faux soins médicaux et dentaires et d'avoir demandé le remboursement par leur sécurité sociale pour un montant d'environ 3,9 millions de dollars. Donc au centre du système, on a un cerveau, c'est Terrence Williams. Donc c'est un ancien joueur des Brooklyn Nets, à l'époque ça s'appelait les New Jersey Nets, et des Houston Rockets. Lui, en plus, il touchait des commissions des joueurs qui recrutaient, qui lui reversaient une part des faux frais médicaux remboursés. Donc on est vraiment sur un bon système frauduleux quand même, hein. Bon alors, la fraude, elle a vite été grillée par la sécu sociale, parce que d'une part, parfois, il faisait des soins dans plusieurs villes différentes à la fois, ou alors, il y en a un qui a quand même posé une facture pour 12 dents le même jour. Et quiconque a été chez le dentiste sait qu'on n'opère pas autant de dents le même jour. Alors, ça peut faire rigoler, mais quand même, ils encourent jusqu'à 20 ans de prison. Nouvel type de ce qu'on appelle du love scam. Donc le love scam, c'est je vais sur des applications de rencontres, des sites de rencontres, et j'essaye en fait de soutirer de l'argent à des personnes qui sont en détresse amoureuse, en manque d'affection, etc. Donc généralement le love scam, c'était on échange un petit peu, je fais un faux profil du sexe opposé, et puis je vous parle, je vous dis j'ai besoin d'argent, fais-moi un Western Union, envoie-le à tel bureau, à tel nom, etc. Là, on est passé à la vitesse supérieure puisque on a ce qu'on appelle du cryptorum. Donc, le principe de base est le même. Je vais sur une appli de rencontre en tant que fraudeur et j'essaye de trouver des gens que je vais arnaquer. Et puis, au fil de la discussion, alors très vite, j'essaye de sortir de la discussion de Tinder qui pourrait être contrôlée et puis je vais sur un Telegram, un WhatsApp et je vais lui proposer d'investir dans des crypto-monnaies. Mais pas sur n'importe quelle plateforme. Je vais lui envoyer un lien pour qu'il télécharge une application sur laquelle il fera ce qu'on appelle un top-up. Donc le top-up, c'est quand vous chargez avec votre carte bancaire sur un service pour créditer un portefeuille. Donc là, on rentre dans deux cas de figure. Soit on est sur quelqu'un qui a un téléphone Android et on sait que sur le Google Store, les applications un peu malveillantes, elles peuvent facilement passer au travers. Par contre, si on est sur l'Apple Store, si on est quelqu'un sur un iPhone, normalement, on sait qu'Apple fait extrêmement attention aux applications qui sont sur son store, donc on a un sentiment de confiance par rapport à une application qu'on installerait sur son iPhone. Mais là, les mecs ont été malins. Quand vous développez une application, vous pouvez créer une version bêta de votre application que vous pouvez envoyer à une dizaine de personnes pour qu'elles puissent la tester en conditions réelles. Et bah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des fausses applications en se faisant passer pour des applications en bêta afin que les gens aillent dessus et fasse du top-up. Alors c'est l'entreprise Sophos qui a mené cette enquête. On ne sait toujours pas quel est le gain supposé des fraudeurs. La seule chose qu'on sait, c'est qu'un des fraudeurs a un portefeuille en Bitcoin qui a été spoté et qu'il avait dessus 1,4 million de dollars en versement. Pas mal. Alors, à la limite de la fraude, mais quand même, c'est pas super jojo. Il y a un article dans Figaro qui a été publié il y a quelques jours sur les néobanques, sur les services de portefeuille électronique comme Lydia, comme PayPal. Bon, selon l'enquête, il s'avère que maintenant, pour régler une commande de drogue, pour régler une passe avec une prostituée, on peut utiliser ce genre de service. Et qu'il est très compliqué pour ces établissements de détecter la fraude ou le, on va dire, la rémunération d'une activité illicite, puisque c'est camouflé sous l'angle d'un transfert entre amis. Et d'autant plus que ces entreprises malfaisantes recrutent ce qu'on appelle des mules, donc des personnes qui vont aller ouvrir des comptes sur ces banques ou sur ces portefeuilles électroniques avec leur propre nom pour réceptionner ces flux et les rediriger à l'extérieur vers un compte bancaire, etc., où l'argent en fait va disparaître. Comment ça marche une mule ? C'est très à la mode. Il y a des pubs sur Instagram, sur Facebook, où on vous propose de gagner de l'argent très facilement. En fait, c'est très simple. Vous ouvrez un compte bancaire quelque part, ou vous donnez même votre IBAN, et puis on vous dit, bah, tu vas recevoir 100, tu renvoies 95 à cet endroit, tu gardes 5 pour toi. C'est clairement de l'argent facile, mais si on est gaulé à cause de ça, on peut être incarcéré pour complicité de blanchiment d'argent, par exemple. Puisque on est un maillon de la chaîne. Donc, si vous voyez ce genre de message qui vous propose de gagner de l'argent en ne faisant rien, fuyez. On continue avec un nouveau type de fraude. Là, on est dans de la fraude commerciale. Amazon. Amazon a fait le grand ménage sur sa marketplace pour exclure des entreprises qui étaient en très grande majorité chinoises et qui vendaient des objets de piètre qualité, mais qui, une fois expédiés, demandaient à l'acheteur ou l'acheteuse de faire un avis élogieux sur la marketplace d'Amazon, et en échange de quoi ils recevaient de l'argent, un autre objet, etc. Donc vraiment, c'était soudoyer les consommateurs pour mettre des bons avis. Amazon les a exclus de sa marketplace et, sans se démonter, en fait, 600 de ces entreprises ont contre-attaqué et ont déposé plainte contre Amazon. Alors, sur quoi ces entreprises ont déposé plainte ? Non pas de leur exclusion de la marketplace au nom du principe de concurrence, non. En fait, Amazon a bloqué une partie des gains de ces entreprises et ne veut pas leur rendre parce qu'elles n'ont pas respecté les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Voilà, maintenant on va voir ce que la justice décide. Alors, peut-être avez-vous reçu un SMS de quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous dit « Bonjour, je suis UPS, il y a un problème avec votre colis, merci de cliquer sur ce lien pour régler les droits de douane, les droits de je sais pas quoi, enfin bref, pour payer quelque chose. » Ceci est une arnaque. Alors maintenant, elle a un nom, hein, elle s'appelle l'arnaque au colis. Et en fait, le but, c'est effectivement de vous faire aller sur une page d'un site pirate avec un TPE électronique que vous remplissiez votre numéro de carte bleue pour payer 10-15 balles. Premier effet qui se coule, vous perdez 10-15 balles. Deuxième effet qui se coule, vous donnez à des pirates votre numéro de carte bleue. Donc vraiment, quand vous recevez ce genre de choses, vous ne cliquez jamais. Et je vous en parle parce qu'il y a eu ça en France, France Info en parle, et surtout il y a eu ça en Suisse, de manière vraiment très large, où des centaines de milliers de personnes ont reçu des SMS. Alors, pour nous, en Suisse romande, c'était simple, parce que le SMS est en allemand. Donc déjà, on s'est dit, c'est bizarre, parce que c'est pas la langue qu'on parle, c'est pas la langue avec laquelle on converse avec les sites de e-commerce. Donc ce SMS, il est très étrange. Je vous en parle, j'en ai reçu 3 en une demi-journée. Donc vraiment, ça a été massif. et Le Temps a fait un article là-dessus. Et effectivement, c'était la même arnaque au colis. Donc, quand on reçoit un SMS de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne clique pas sur les liens. Bon, il me fallait quand même une petite pyramide de Ponzi dans cette revue de presse, parce que sinon, ça ne serait pas Fraudster. D'ailleurs, allez réécouter la saison 1 sur l'histoire de Charles Ponzi. Au Canada, alors c'est, en fait, c'est, je suis un peu, comment dire, jovial, mais en fait, c'est très triste. Au Canada, il y a une femme de 69 ans qui travaillait à la base comme guichetière dans une banque à la BMO de Cookshire et qui a escroqué 2,8 millions de dollars donc sur un principe de Ponzi auprès de 86 victimes, dont des amis d'enfance qu'elle connaît depuis 60 ans. Voilà. Alors, comment a-t-elle fait ? Bah, c'est très simple. Quand elle a commencé à travailler à la banque, elle a commencé à leur dire « Voilà, je connais des placements, si vous voulez, donnez-moi de l'argent, rendement à 10% annuel. » Et puis, bah, de fil en aiguille, elle recrute de nouveaux clients qui lui permettent de rembourser les premiers. Et en 2018, elle dit elle-même qu'elle fait faillite. Et bah, et puis c'est la fin, quoi. Donc, elle est en prison. Il y a des gens qui ont perdu toutes leurs économies. Donc, si jamais on vous propose, on le répète jamais assez, hein, mais si jamais on vous propose un produit dont le rendement est à deux chiffres assurés et que ça ne se repose sur rien, vraiment, il y a un loup, quoi. N'y allez pas. Et on arrive à la dernière news de cette première revue de presse. C'est Le Parisien qui nous en parle. La Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, va lancer un projet très innovant avec Google, c'est-à-dire qu'elle va utiliser les images de Google Maps pour faire la chasse aux non-déclarations de piscines et de vérandas et d'extensions d'immobilier. Alors pourquoi tout ça ? Bah, c'est tout simple, vous faites construire une piscine chez vous, votre bien immobilier y prend de la valeur, bah, la taxe foncière elle prend aussi, quoi. Et donc l'État y voit un manque à gagner. Alors ça a fait un peu jaser de voir que Google allait travailler avec la direction des finances, sachant qu'ils sont un peu en bisbille sur tout ce qui est paiement des impôts en France. Mais en fait, l'article nous apprend que derrière le nom de Google se cache en fait Capgemini, qui va juste utiliser les images de Google. Donc c'est bien Capgemini, société encore française, qui va traiter ces données. Et ça, ça a été possible parce qu'en 2019, toujours dans l'article, on nous apprend que ils avaient déjà fait une expérimentation LGFIP avec Accenture et qu'en Charente-Maritime, dans la Drôme et dans les Alpes-Maritimes, grâce à cette mécanique, ils avaient identifié 3000 piscines rien qu'en Alpes-Maritimes non déclarées. Plutôt efficace. Et voilà, c'est la fin de cette première revue de presse. J'avais dit 15 minutes, je vois qu'on arrive à 18. Le contrat est plus ou moins rempli. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, franchement, faites-moi des retours sur Twitter, Julien Loisy, L-O-I-S-Y. Faites-moi des retours sur iTunes en mettant des commentaires à ce podcast. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts du label Podcut sur podcut.studio. Si jamais tout ce qu'on fait vous plaît, on a un Patreon, patreon.com/podcut. Vous pouvez nous donner 1 euro par mois pour nous aider à financer tout ce qu'on produit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans un mois pour une prochaine revue. Et sachez que la saison 2 est toujours en cours d'écriture. Je peux déjà vous dire, je crois que j'avais dit que c'était un joueur de poker. Ça sera Mike Possel, qui est une affaire qui est en cours sur un joueur de poker qui a escroqué beaucoup de joueurs de cash game. Et c'est très intéressant. Merci de m'avoir écouté et on se dit à dans un mois. Ciao.
Monsieur Madoff a été arrêté jeudi.
26 milliards de dollars ont été volés par l'origine d'une escroquerie.
À la DEA, milliards d'euros. À côté près de 1 Dieselgate, à côté de 30 milliards d'euros.
Hey, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.